Sous le paysage. Épisode 2. Sens, langage, animalité. Enregistré à la Série, dans la bergerie de la vallée de Fabrice Hibert, en juillet 2024. En présence de Jean-Christophe Bailly, Maxime Olivier, Anne Simon et Gilberte Saille, sur l'invitation de Maxime Rovert.
Je voudrais qu'on zoome un peu dans notre affaire de paysage pour interroger les détails. C'est-à-dire là, depuis qu'on réfléchit sur cette première approche du paysage, effectivement, on a brassé les notions de fini, d'infini, d'horizon, de rencontre, mais pas tellement ce qui permet de sentir le paysage et cet apprentissage nécessaire, ou pas, à une approche fine ou pleine ou accomplie du paysage. On a l'impression en particulier qu'en perdant les savoirs qui sont des savoirs de personnes qui vivaient dans les paysages de campagne ou de mer, c'est-à-dire quand on n'est ni agriculteur ni pêcheur, on ne sait pas regarder, on ne sait pas voir, on ne sait pas sentir, on ne sait pas écouter. Et pas seulement parce qu'on n'a pas les mots, mais parce qu'on n'a pas les pratiques. Alors est-ce que nous sommes en train de perdre nos paysages et si oui, comment revenir sur cette terrible évolution?
D'abord, je pense qu'il faut se méfier de l'écologie utilitariste.
Anne Simon.
Toujours être utile, c'est encore une manière de recycler le productivisme et le ressourcisme. Ce que tu poses comme question, c'est la question du rapport au langage, et du rapport au langage à travers le paysage, avec ce beau suffixe « âge » qui nous ramène à image, visage, langage, paysage, enfin tu vois, ce suffixe « âge » qui vient dire une collection, un ensemble de choses qu'on peut assembler, avec lesquelles on peut faire corps, voilà, donc corps collectif y compris, et on fait corps collectif avec des visages. Un nouveau mot, nouveau monde. C'est ce regret que tu as de ne pas savoir nommer ce qui t'environne quand tu es notamment dans un paysage qui ne t'est pas familier. Je crois qu'on l'a tous, un peu à tous les âges. Quand je lis du Giono, par exemple, le vocabulaire qu'il emploie, bon, d'abord, il est complètement inattendu. Il va parler de l'odeur de pain, P-A-I-N, de la mer, que l'amour aussi a l'odeur de la farine. Ça ne veut pas dire qu'on doit savoir tous les noms des arbres, des oiseaux, etc., mais que la rédaction, l'apprentissage par cœur de poèmes et la rédaction en primaire et au collège, c'est essayer de permettre aux enfants de décoincer leur langage. Mais pour ça, il faut les faire lire.
Oui, donc en fait, on a l'impression que le paysage existe dans toutes les dimensions sensorielles auxquelles nous avons accès.
Et qu'on pourrait l'aborder par d'autres sens que celui de la vue. Peut-être que décadastrer le paysage, c'est aussi nous faire accéder à un monde. Alors c'est compliqué, hein. Depuis tout à l'heure, on parle de monde, on parle de paysage, on parle de nature, voilà, on se refuse un peu à définir véritablement le terme paysage, et je crois que c'est une bonne façon de procéder, d'y aller par différents angles. Et si on y va par le côté des différents sens, je pense par exemple à un livre de Virginia Woolf qui s'appelle « Flush ». Et Flush, c'est la biographie d'un chien écrit fictivement par Virginia Woolf. Et ce chien, c'était le chien d'une poétesse. Et à un moment, il arrive à Florence avec son maître et sa maîtresse, et elle se met à sa place, et il est là à fleur de terre, et il expérimente Florence autrement, par les taches de sang du côté des bouchers, par les flaques de vin, par toutes les odeurs d'immondices aussi, mais aussi de parfums de femmes, etc., qui peut sentir. Et c'est une véritable prouesse, puisque elle doit nous transporter en quelque sorte dans le corps d'un chien en mouvement, qui va nous donner à lire Florence, puisqu'on est dans un livre, à partir d'un autre sens que celui de la vue. Et c'est extrêmement bien réussi. C'est Giono qui dit dans Le Chant du Monde que Clara, voilà, elle voit bien plus loin que ceux qui ont le sens de la vue et dont le monde est restreint, justement.
Que nous, les humains, on n'est pas très bons.
Jean-Christophe Bailly.
Par rapport aux autres animaux, par exemple pour Louis, on est des rigolos par rapport à une souris. Une souris. Une souris, elle entend 10 fois mieux que nous. Quand je dis 10, c'est beaucoup plus. Pour l'odorat, c'est bien sûr que le chien du livre de Virginia Woolf, mais les animaux qui sentent, qui s'orientent dans le paysage par rapport à des flaques d'odeur, des nuances comme ça, ils savent toujours où ils en sont avec le monde par l'odorat. Nous, on est vraiment des rigolos. Ça pue, à peu près ça s'arrête à ça, puis on s'approche d'une fleur, on trouve qu'elle sent bon, mais on n'a aucune espèce de... Alors il y a des... Comme vous le savez, il y a des gens qui font tout un effort, peut-être un talent et éducation, qu'on appelle les nés, où ils arrivent à reconnaître des centaines de nuances olfactives, mais ils sont très très rares, et d'ailleurs très prisés, et très bien payés par les parfumeurs. Mais si on ajoutait d'autres sens, comme le tact, le toucher, pareil, c'est très peu étudié. Par exemple, si on est un serpent, on est en contact permanent, un reptile, on est en contact permanent avec le sol ou avec les reliefs. Ça veut dire qu'évidemment, le serpent, il sait toujours à peu près où il en est par rapport à du rugueux, du lys, etc. Ils ont des moyens d'identification qu'on n'a pas du tout, ou qu'on a peut-être, mais qu'on utilise extraordinairement peu. Et donc là, le paysage, il est, des sens. Le paysage, il est entièrement à retrouver, à reconquérir. Ça, c'est sûr. Parce qu'on a perdu énormément. Et c'est connu que, par exemple, et ça existe de moins en moins parce que malheureusement, ces populations ont été laminées, exterminées. Mais les ethnologues qui ont pu encore fréquenter les populations de chasseurs-cueilleurs expliquent très bien que les chasseurs-cueilleurs ont un odorat et une ouïe beaucoup plus fine qu'eux-mêmes.
Sur la question des mots, en revanche, je voudrais partager avec vous une expérience qui a été la mienne par rapport aux étoiles. Lorsque je me suis intéressé aux étoiles, j'ai commencé donc à apprendre le nom d'un certain nombre d'entre elles. Des constellations, apprendre à reconnaître les constellations et progressivement, effectivement, à savoir m'orienter dans le ciel. Au bout d'un moment, j'ai décidé de tout oublier volontairement. Parce que j'étais scandalisé de regarder le ciel nocturne comme une carte. C'est-à-dire que je ne voyais plus les étoiles, j'identifiais des points de repère lumineux dont je connaissais le nom et qui, en fait, m'avaient finalement privé de l'émotion qui était... Parce que finalement, les étoiles, vraiment, vraiment, c'est loin. Vraiment, ce ne sont pas des petits points lumineux dans le ciel nocturne. Ce sont des réalités tout à fait autres. Et il me semble que... Enfin, je vous pose la question de savoir ce qui nous ouvre et ce qui nous enferme dans le langage. C'est-à-dire, comment faire en sorte que le langage ne devienne pas une sorte de cartographie qui, à terme, nous empêche d'être en contact avec le territoire, et à quelles conditions... Est-ce qu'au contraire, le langage nous ouvre et nous permet d'aller plus loin dans nos perceptions, dans nos sensations, dans notre décentrement ?
Alors moi, je dirais d'abord que dans toutes les cultures, on délimite. Dans toutes les cultures, on fait des séparations, des frontières, des lisières, des marquages, des différenciations, etc. C'est pas la mode du tout, hein, ce que je suis en train de dire, parce qu'on a la sensation que l'Occident, et pas à tort, a imposé ses propres catégorisations et ses démarcations. Donc la question, c'est pas que les mots délimitent des catégories d'être ou de rapport au monde, c'est quand il y a un langage général, je dirais, qui vient monopoliser l'ensemble. Concernant les mots du ciel, je dirais, tout dépend aussi quels sont les mots que tu as appris. Parce que moi, j'ai toujours été fascinée par cette création mésopotamienne que sont les constellations du zodiaque. Et quand on sait reconnaître Orion, quand on sait reconnaître la constellation du taureau, quand on sait, dans un autre hémisphère, voir celle du loup, etc., on se rend compte que le ciel, c'est une jungle, c'est un endroit qui est complètement animé, qui est en cercle autour de nous. Hein. C'était l'idée que le ciel était habité, aussi habité, je dirais, que les grottes, que le souterrain. Il y a un paysage du ciel qui venait correspondre à la matrice des grottes, qui était elle-même décorée d'animaux, et qui était d'autres formes de zodiaque en quelque sorte. Et les humains, on se mouvait sur Terre en étant entourés en haut et en bas par un monde hyper peuplé. Et donc moi, j'aime beaucoup connaître le nom de ces constellations, et parce qu'elles me rebranchent sur la mythologie et les histoires qu'il y a derrière.
J'ai une question sur
Maxime Olivier.
Sur cet enjeu de la sémantique, il y a une tension que j'identifie, que je n'arrive pas trop à résoudre. Moi, je suis assez fan de Camus, mais de cette phrase en particulier qui dit « Mal nommer les choses, c'est ajouter du malheur au monde, et ne pas le nommer serait pire encore. » Et il dit ça, et en même temps, j'ai cru comprendre et j'ai cru lire dans plusieurs ouvrages, notamment que notamment sur le travail des naturalistes, avec la nomenclature et le fait de nommer notamment les différentes espèces, vient la dynamique d'appropriation, de conquête, de un rapport très conquérant à la chose qu'on essaie de nommer, qu'on essaie de comprendre. Et donc il y a tout aussi une partie de l'écologie sensible qui vient plutôt des autrices, femmes naturalistes d'une certaine manière, mais qui essaie d'avoir une autre approche à cette nomenclature-là dans les paysages. Et un peu cette tension-là en moi qui a envie de nommer et de comprendre les choses, en ayant conscience que j'applique des concepts et des noms sur un paysage que du coup je... Je ne sais pas si c'est des natures, mais en tout cas, où je crée un rapport... le mot qui me vient, c'est celui de conquérant, toujours, un peu, tu vois, ce truc de préhension sur les choses, de prédation, un peu, par les concepts sur un paysage qui n'a pas demandé à être conceptualisé d'une certaine manière.
Oui, mais là, il faut faire attention, parce que le langage est universel, ça veut dire l'homme parle, où qu'il soit, de quelque civilisation qu'ils viennent, d'une tribu où ils sont en voie de disparition dans la forêt, et les langues parlées par des millions de gens. Et ce qu'il faut imaginer toujours, c'est l'inverse. Imagine un monde où il n'y aurait pas de nom. Ce monde n'est absolument pas l'enfer, c'est le monde des animaux. Et je serais le dernier à faire un partage animaux-hommes comme ça, avec l'homme qui justement serait le costaud, qui a inventé le langage, les symboles, etc. On n'a plus besoin vraiment de lui dresser des socles où il peut gonfler les pectoraux. Bien sûr que ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Mais en même temps, pour vivre sur Terre, il faut se débrouiller. Et quand on n'est pas très équipé, on n'a pas un odorat très fin, on a une vue moyenne, une ouïe minable, etc. Comment tu frayes? Et ça, c'est un mot très important, le frayage. Comment tu vas frayer dans le monde? Eh bien, je pense que ce qui a sauvé l'homme et ce qui le sauve à mes yeux, ce qui le rend encore sympathique, c'est qu'il a justement inventé le langage, où qu'il soit. C'est son frayage, encore un yage. C'est son frayage à l'homme. Et si tu enlèves ce frayage, il perd tout. Il perd tout. C'est-à-dire que tu es aveugle, sourd et muet, c'est le cas de le dire. Et très souvent, ça me choque quand les gens disent et les gens disent « Oh, il n'y a pas de mots pour le dire ». Bien sûr qu'ils sont là, les mots pour le dire. Sinon, et évidemment qu'on ne le dira jamais à 100% parfaitement comme on voudrait, même le métier d'écrivain n'a de sens qu'à essayer de rejoindre cet illimité impossible, mais... Les mots, ils existent. Et ce que les hommes ont fait de mieux, au fond, c'est justement de dire que bois, c'est pas planche. Et quand cette expression qu'on utilise, la langue de bois, ça me choque, c'est tellement insultant envers le bois. Hein, parce que tu pourras avoir la langue d'acacia, ça va pas être la langue du hêtre, qui va pas être la langue du mélèze, qui va pas être la langue du sapin. Donc le bois, c'est une infinité de langues. Et pourquoi il y a cette infinité de langues aussi? C'est parce que l'homme, c'est sa manière de tâtonner dans l'univers. Ah, au bout du doigt, il a identifié. Au bout de cette identification, il a mis un nom. Et si c'est un Inuit, il met un nom Inuit. Et si c'est un Hindou, il met un nom Hindou, etc. etc. Et ce buissonnement végétal du lexique, c'est extraordinaire. Ça, c'est une autre biodiversité aussi. Il ne faut pas l'opposer. Que les Occidentaux essayaient de faire main basse sur le monde, c'est vrai. Mais ce n'est pas le malheureux Linné, en faisant ses catalogues, qui est le vrai oppresseur.
Oui, c'est marrant que tu parles de Linné, ça me fait penser, on est au 18e, on est dans une nouvelle façon de catégoriser le monde. Il invente le mot mammifère. Avant, nous, on est tous persuadés aujourd'hui que les mammifères existaient. Ben, avant les mammifères, il n'y avait pas de mammifères, il y avait des quadrupèdes. Et je suis, c'est pour ça qu'il faut aussi apprendre des langues différentes, si on le peut, hein, si on en a les moyens sociologiques aussi, tout simplement. Parce que ça vient cadastrer nos paysages de façon complètement différente. Tout à l'heure, Jean-Christophe parlait du serpent, qui a le thorax ou le ventre collé au sol. Bon, ben, pour nous, ça, c'est pas une catégorie particulière. Dans la Bible, c'est une catégorie particulière. Dans la Genèse, on a le cinquième jour, les oiseaux des cieux et les poissons qui sont créés, c'est-à-dire pas les oiseaux de terre. Et le sixième jour, on a les rampants, les shretzim, donc ceux qui pullulent et qui ont le thorax collé au sol. On a les animaux sauvages et les bêtes de la terre et l'humain. Et moi, j'aime beaucoup aller voir en hébreu ou aller voir en grec, etc., quels sont, ou dans d'autres langues, quelles sont les manières de nommer les différentes sortes d'animaux qui vont donner forme au monde et faire paysage pour nous. Et la deuxième chose, c'est à propos de ce que tu disais sur le côté dominateur de la langue, et que c'est quelque chose d'énorme, tu as entièrement raison. L'alphabet, ou l'alphabet, il est né avec la liste. Hein. Il fallait, on avait des hangars avec des grains, avec des jars d'huile, etc., ou peut-être des moutons, il fallait les compter, il fallait pouvoir en faire un répertoire. Et donc, je dirais que l'alphabet, il est né avec l'économie. Mais très rapidement, cette liste qui est l'appropriable par excellence, hein, et ce qui peut, comme tu le dis, déboucher sur la conquête. Et qu'est-ce qu'on fait d'ailleurs quand on a un conquérant? La première chose qu'on fait, c'est qu'on impose sa langue à celui qu'on domine et qu'on essaye d'exterminer sa langue. Mais ensuite, la liste, c'est aussi tout ce qui est infini, indéterminé. Par définition, une liste ne peut pas se terminer. C'est des écrivains comme Proust encore ou comme Claude Simon qui disent qu'une description, on ne peut jamais la clore, hein, puisque tu peux toujours aller dans le plus petit ou dans le plus grand, etc. Donc, c'est juste pour dire que pour un même phénomène, on a différentes interprétations. Et il y a deux choses encore que j'ai envie de rajouter. C'est ce que tu touches aussi, c'est la question de qu'est-ce que c'est qu'un mot? Est-ce que c'est une convention? Ça, c'est un très, très vieux débat qu'on connaît depuis que l'humain est né, quasiment. Est-ce que les mots sont nés par convention ou est-ce qu'ils collent à la chose, ils collent à la bête? Est-ce qu'ils sont adaptés, les mots, à la réalité qu'il désigne? Donc voilà, c'est une question que je lance. Mais pour le paysage, c'est important, hein, de se dire, est-ce que c'est juste de la convention quand on peint, quand on fait des traits ou quand on décrit un paysage par les mots? Ou est-ce qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'être là et du mouvement de jaillissement et d'apparition du paysage qui se crée avec les mots qu'on emploie? Et je rajouterais à ce que disait, c'est la troisième et dernière chose, ce que disait Jean-Christophe, oui, il y a les noms qui importent, c'est ce que tu disais aussi, mais il y a la syntaxe. C'est-à-dire qu'en littérature, et c'est la même chose en art, en dessin, en peinture, ce qu'on peint, c'est pas juste des touches ou des taches, et ce qu'on écrit, c'est pas, on met pas des mots les uns à côté des autres. On crée des articulations. Et il y a des articulations qui peuvent être mortifères et des articulations qui peuvent laisser respirer et qui peuvent laisser à cet entre-deux dont tu parlais, cette lisière entre la forêt et la plaine, par exemple, qu'on retrouve dans Bambi. Hein, Maxime, toi qui es là, qui a fait la préface du Bambi de Félix Salten, tu le sais bien, mais on le retrouve aussi, cette très belle image, dans le Bambi de Walt Disney. Voilà, la lisière, c'est le lieu de tous les désirs, de la curiosité, et puis aussi peut-être le lieu parfois de la mort.
Il y a une chose qui me semble importante dans la manière dont le langage nous ouvre à l'expérience, c'est quand même la notion d'attention. C'est-à-dire que l'avantage de savoir nommer, c'est que tu vas porter attention aux différences. Ça devrait déculpabiliser le flou linguistique dans lequel se trouvent les urbains lorsqu'ils se trouvent confrontés à une expérience de paysage dont ils ne savent pas nommer les détails. Je dirais, il suffira qu'ils portent attention aux différences. De là, ils apprendront à nommer. Peut-être qu'ils le nommeront différemment, peut-être que ce ne sera pas le bon mot. Mais l'important n'est pas vraiment le mot, c'est l'attention que tu donnes au surgissement de la différence. Si tu sais reconnaître cette différence, alors la rencontre a lieu. Et une fois que la rencontre a lieu, eh ben, en fait, tout est possible. C'est-à-dire que l'intérêt de parcourir un paysage, de se réjouir d'un paysage, de s'intéresser à un paysage, c'est quand même la manière dont on se transforme ensemble. Et donc, on se transforme ensemble à mesure que l'attention que je donne à quelque chose transforme notre rapport. Et donc, ce que nous allons vivre, soit que je cherche désormais à protéger ce que j'ai rencontré, soit qu'au contraire, je cherche à me l'approprier, donc par toutes sortes de moyens. Et je crois que l'attention, c'est-à-dire le temps qu'on accorde à cette expérience, la manière dont on la laisse s'expandre, se déployer dans le temps, et en fait définir elle-même sa temporalité, c'est en fait là que le paysage cesse d'être prisonnier en fait de la définition spatiale qu'on aurait tendance à lui donner, et que le paysage, ça devient quand même une dimension d'expérience temporelle et qui, dans notre existence d'aujourd'hui, est en fait un ralentissement. Là où il y a paysage, ça ralentit.
Jean Giono, Promenade de la mort.
À la fin, il s'éveilla. Et il essaya de se reconnaître en reniflant de droite et de gauche. C'est à ce moment-là qu'il sentit l'odeur de père. Il y avait alors 7 heures que père était mort. Très bas, au fond de l'est, par-delà de hautes montagnes, les alouettes avaient déjà commencé à chanter. Père faisait tenir ses pantalons avec une ceinture de cuir. À l'endroit où elle serrait, le ventre avait déjà noirci et il sentait. Le cheval est né. Il écouta son cri solitaire partir vers les vallons profonds. La solitude est naturelle. L'ivresse de vanille avait arraché du cheval toutes les étables où il avait été renfermé. Il avait retrouvé le jeu commencé près de la jument poulinière. Il recommença à crier et il écouta encore tous les dévalements de son cri dans les échos. Il entendit toute la composition du pays autour de lui. Il entendit les coteaux, les collines et les premiers escarpements des montagnes. Il entendit les vallons et dans les endroits silencieux, il entendit les vallées et les petites plaines qu'il avait traversées tout le jour passé. Il entendit les quelques murs de maisons du haut pays, par là-bas, au-delà de la forêt. Il avait senti les arbres, il entendait les feuillages s'épanouir et se refermer sur les plages de la nuit. Il appela encore. S'il avait été nu et libre, il serait venu renifler l'odeur de père, puis il se serait dressé. Il aurait appuyé ses sabots de devant contre le tronc du hêtre et il aurait mangé ses feuilles luisantes sur lesquelles s'éteignait maintenant le brasillement de la nuit. Il se remit en marche. Il montait. Le poids de père glissa vers l'arrière de la charrette et fit relever les brancards. À chaque soubresaut des roues, l'odeur de la mort sautait toute épaisse. Déjà, à travers les ténèbres usées, des formes apparaissaient. Le cheval montant vers le plateau marchait au pas à travers les genévriers. Les branches caressaient les ridelles et fouettaient derrière la charrette éparpillant l'odeur de la mort. Une chevêche pâle et souple flotta à travers la nuit et cria, puis posée sur un sapin, elle se mit à luire de ses 2 yeux d'or. Le monde sortait peu à peu de la nuit.
Anne Simon.
Je suis chercheuse au CNRS depuis 2001. J'ai été recrutée sur la question de l'animalité, du sauvage en littérature, la question du corps. Et j'enseigne à l'École normale supérieure de Paris dans le département littérature et langage. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la question de l'animal, de l'animation, du souffle et du mouvement. Donc automatiquement, la question du paysage, pour moi, ça ne peut pas être un lieu qui serait déterminé par un point fixe, qui serait même déterminé par un point de vue humain fixe. J'ai l'impression que d'emblée, cette question-là du paysage, elle est déplacée par la littérature qui traite de l'animalité, parce que à chaque fois, on va avoir des animaux qui vont parcourir un espace et donc qui vont démultiplier les perspectives sur le lieu. Est-ce qu'ils le transforment, ces animaux, en paysage ? J'en suis pas sûre, mais en tout cas, pour le narrateur ou la narratrice, pour le point de vue humain qui est porté sur le paysage, il est d'emblée animé par ce que Jean-Christophe Bailly appellerait sans doute des esquives et des lignes de fuite, par des parcours, par des vitesses, par des arrêts. Voilà. Donc moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est ce lien déjà. Le fait de travailler en zoopoétique, de travailler sur l'animal en littérature, m'amène obligatoirement à animer le paysage et à lui le doter d'être qu'il habite. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième, c'est qui dit animaux au pluriel, puisque la zoopoétique, c'est ce qui s'intéresse non pas à l'animalité en littérature, mais aux animaux au pluriel en littérature, qu'il s'agisse de diverses espèces, y compris la nôtre, ou d'individus singuliers dans une espèce. Donc, je dirais que du coup, cette pluralité-là m'amène à une pluralité de temporalité. Et la question des animaux, et même de la respiration et de ce fameux souffle dont je parlais tout à l'heure, ça temporalise obligatoirement le paysage. Il y a des apparitions, des disparitions. Un paysage peut être animé par des êtres qui ont des vitesses différentes, y compris des forêts, des arbres, des saisons. Si on est au bord de la mer, des marées, des flux et reflux, des changements de climat rapides. Et donc j'en finis même par me demander si c'est bien du paysage que je suis en train de parler finalement. La zoopoétique, c'est d'abord un mot, et c'est un mot que j'emprunte à un très grand philosophe, Jacques Derrida, qui l'utilise dans L'animal que donc je suis, très exactement à la page 20. Et il l'emploie pour dire que dans L'animal que donc je suis, il ne va pas faire de la zoopoétique. Pourtant, il va revenir à sa propre animalité, l'animal que donc finalement je suis après des siècles et des siècles de philosophie qui a dit que les humains n'étaient pas des animaux. Mais peut-être aussi que c'est l'histoire d'un homme qui suit les animaux, hein, l'animal que donc je poursuis, je traque et qui n'est peut-être pas moi, qui est peut-être un membre d'autres espèces tellement variées qu'elles sont incommensurables, la baleine, le requin, la fourmi rouge, l'acarien, etc. Donc, dans l'Arche de Noé, il y a tellement d'espèces que, finalement, on se demande si le mot « animal » convient pour parler de toute cette diversité animée. Et ce mot zoopoétique, Derrida l'emploie pour dire que Kafka est l'un des grands initiateurs de la littérature animale dans sa version allégorique, fabulée. Alors, c'est pas seulement un initiateur, c'est, je dirais, un parmi d'autres qui, depuis les mythes, depuis les fables, a, selon Derrida, envisagé l'animal comme une allégorie, une affabulation, une façon de parler de soi. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette thèse-là sur Kafka, mais ce n'est pas le lieu aujourd'hui d'en parler. En tout cas, pour Derrida, la zoopoétique, c'est l'animal dans son lien au mythe, à la fable, à l'invention, à la figuration. Et moi, j'ai repris ce mot-là et je l'ai un peu... Je l'ai déplacé. Et je suis revenue à l'étymologie. Donc dans poétique, on entend un très vieux verbe, qui est le verbe poiein en grec, qui veut dire faire, fabriquer. C'est quelque chose de très artisanal et ça nous ramène à la littérature comme artisanat et pas du tout comme l'image d'un artiste maudit, enfin de ce grand machin qu'on nous vend, voilà, qui nous fait très peur quand on doit faire des études de lettres et qu'on n'est pas fait pour ça, par exemple, pour certains. étudiants ou étudiantes. Et puis dans zoion, voilà, on entend zoion, et le zoion en grec c'est un, voilà, un élément compliqué que certains traduisent par animal, que d'autres traduisent par être vivant, et que Francis Wolff traduit, qui est un philosophe lui aussi bien nommé, hein, Francis Wolff, qu'il traduit par le fait d'être en mouvement. Voilà, donc le zoion, ce serait des animés qui sont dotés de respiration et de mouvement. Donc voilà de quoi traite la zoopoétique. D'une part, ce sont des gens comme moi, des spécialistes qui vont étudier cette question des animaux et de leur mode de vie et de leur animation en littérature. Mais d'autre part, il y a un autre sens qui, moi, m'intéresse beaucoup, c'est l'idée que ces animaux, ils font aussi des choses, ils fabriquent des sens, ils donnent à l'humain ou aux autres espèces à lire des signes, à même le sol, et que donc les animaux eux-mêmes sont des producteurs, sinon de langage, en tout cas d'histoire. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'un chasseur ou un chasseur d'images ou quelqu'un qui aime randonner en suivant des traces le sait très bien. Un animal nous emmène vers sa vie, tout simplement en laissant des traces, en pépiant. On peut suivre les animaux dans leur monde, mais ils sont aussi très forts pour nous leurrer et nous emmener sur des fausses pistes. Donc pour moi, ce qui est passionnant pour ce qui concerne la littérature, c'est que d'une part, on a l'écrivain qui va tenter d'accéder à des mondes animaux et à les retranscrire dans ce qui se fait la spécificité de l'humain, à savoir un langage porté à un point d'abstraction, de inouï. On est capable de représenter l'absence, d'accéder à la transcendance, par exemple dans la prière, dans des poèmes, avec le langage. Eh bien, par ce langage qui est le comble de l'humain, on peut aussi accéder à d'autres espèces que la nôtre qui sont dotées d'autres moyens de communication. Et donc, le langage n'est pas fait pour nous enfermer dans le studio de l'humain, mais pour nous en faire sortir. Et c'est pour ça, je dirais, que les humains l'ont inventé, entre guillemets. C'était pas pour rester entre eux, c'était pour communiquer avec le reste du monde. Et dans les animés, j'entends aussi les arbres que j'ai devant moi, voilà, dans ce lieu si particulier.
Cet épisode est soutenu par l'École des Beaux-Arts de Nantes-Saint-Nazaire, l'Atelier de Sèvres, Nantes Université et l'association Fieldwork Marfa.